Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de La Clanche. On est sur la saison 2 et c'est le deuxième épisode, un deuxième épisode avec une femme entrepreneuse qui va nous parler de son activité. J'ai le plaisir d'accueillir Charlotte Palot. Ça va Charlotte ?
Bonjour Thomas, oui ça va super. Et toi ?
Ça va, t'es pas trop stressée de passer dans La Clanche ?
Non, ça va, la bonne pression.
La bonne pression, c'est très bien. Alors Charlotte, c'est le petit rituel, est-ce que tu peux déjà te présenter ?
Oui, alors je suis donc Charlotte Palot, je viens d'avoir 30 ans, je dirige une agence de communication qui est basée à Metz au centre-ville, à côté de la place Saint-Louis, place du Quarto précisément pour ceux qui connaissent. Donc c'est une agence qui est spécialisée en création de contenu, donc c'est-à-dire qu'en fait on fait tout ce qui est photo, vidéo, graphisme à destination des sites internet et des réseaux sociaux. Essentiellement, et on a maintenant quelques activités connexes qui gravitent un petit peu autour, et on est aujourd'hui 5 permanents dans cette agence.
C'est plutôt pas mal.
Ouais, c'est bien.
On peut citer le nom de l'agence aussi ?
Oui, pardon.
C'est bien aussi, t'en parlais.
Ah, les gens de la com qui sont nuls pour faire leur com. L'agence s'appelle À le fleuve, qui est un nom un peu bizarre, mais voilà, qui a un sens caché. Peut-être qu'on en parlera après.
Ah bah justement, parlons-en. D'où ça vient ce nom ? Parce que je me suis posé la question, mais je t'ai jamais posé la question.
Ouais, ça interroge souvent. Souvent, ça laisse pas indifférent, en tout cas comme nom. Alors, À le fleuve, en fait, c'est parce que mon associé, dans cette aventure, qui est aussi mon conjoint dans la vie, est corse, originaire du sud de la Corse, donc près de Sartène, pour ceux qui partent en vacances là-bas. Et en fait, à proximité du village familial, il y a un fleuve qui coule, qui s'appelle l'Ortolo, qui fait 31 km de long, et qui va se jeter dans le golfe du Valinco, précisément. Et en fait, un été, on avait des amis qui étaient là, et on a un de nos copains qui nous a fait une espèce de sketch pendant une demi-heure en prenant un accent corse avec un béret et un bleu de Chine. Et il nous a dit, les amis, on va à le fleuve, on va à le fleuve. Et c'est resté, on va à le fleuve. Et donc, en fait, on dit, voilà, ce fleuve, on l'appelle comme ça. Et il y a quelques années, ça remonte un peu maintenant, avec mon associé, on s'est dit, bah, si un jour on monte une entreprise, on l'appellera À le fleuve, en hommage à cet endroit. Et pour la petite histoire, c'est là-bas qu'on fait notre assemblée générale annuelle.
Ah ouais, carrément. Bah, c'est bien, voilà. La boucle est bouclée, en fait.
Exactement. Donc, À le fleuve, ça se prononce avec l'accent corse.
Avec l'accent corse.
Exactement.
On salue tous les Corses, d'ailleurs, qui peuvent nous écouter.
Eh oui, on les embrasse.
Est-ce que, du coup, on peut revenir en arrière, petit flashback ? C'était quoi ton parcours d'études déjà ? Qu'est-ce que tu rêvais de faire ? Parce que tu sais, quand t'es une petite fille, tu rêves des fois d'être astronaute, professeur des écoles. Toi, c'était vraiment direct la com ?
Alors moi, c'était pas vraiment la com, mais pas très loin. Depuis que je suis toute petite, en fait, je voulais être journaliste. Mmh. J'ai toujours voulu être journaliste et j'ai toujours voulu bosser dans la télé. Donc en fait, mes parents, quand j'étais petite, m'ont offert une caméra, je devais avoir 5 ou 6 ans. Et à partir de là, ben, banco, je filmais les vers de terre dans le jardin, je faisais des reportages sur les nids d'oiseaux. Enfin, c'était vraiment un truc qui m'a tout de suite pris, le côté image m'a beaucoup plu. Donc du coup, j'ai passé mon bac dans le coin, à Metz, un bac ES. Et je suis partie direct, j'ai fait une année de prépa littéraire, mais ça ne m'a pas trop plu. Et j'ai enchaîné sur un DUT de journalisme dans le sud de la France, à Cannes, pendant 2 ans.
Plutôt sympa.
Ouais, sympa, il faisait beau. Et ensuite, j'ai fait une troisième année de licence professionnelle, toujours spécialisée en journalisme télé cette fois-ci, avec une spécialisation qui s'appelait réalisation de magazines documentaires. Et là, je suis partie la faire à Oslo, en Norvège.
Ah ouais.
Ouais, j'ai un peu bourlingué, c'était cool. Donc voilà, ensuite je suis partie faire plusieurs expériences professionnelles dans des boîtes de production à Paris, à l'agence Kappa, enfin j'ai visité un peu différentes maisons et j'ai repris ensuite mes études en master et là j'ai fait un master de journalisme télé que j'ai fait en fait en apprentissage chez M6 à Paris et ensuite je suis restée pigiste pendant quelques mois à Paris, j'ai fait différentes rédactions, je suis passée un petit peu dans différentes maisons encore une fois et au même moment l'opportunité de la com s'est présentée et j'ai un petit peu bifurqué à ce moment-là.
On va en reparler. Alors justement, le fait de... Tu as dit ça, t'a toujours intéressé, le côté visuel. Qu'est-ce qui te plaisait le plus ? C'est d'être derrière la caméra ou devant la caméra ? Parce que c'est pas la même chose, au final, en termes de production, de métier, etc.
Ah ouais, c'est deux métiers complètement différents. Le côté GRI, donc journaliste reporter d'image, donc caméraman, c'est un peu le terme... moins glorieux, on va dire, du GRI, ça sonne mieux. Moi, j'ai toujours voulu être derrière la caméra, faire des films, créer des histoires, raconter des histoires, mettre en image des moments. Voilà, ça, c'est le truc qui me parle. Devant la cam, je l'ai fait aussi un peu, mais c'est moins mon truc. Je suis trop stressée pour ça. Je commence à bégayer dès qu'il y a la caméra sur moi.
Du coup, le podcast, c'est très bien.
Exactement.
Et par rapport à tout ça, le fait de développer ce côté image, mise en scène, histoire à raconter, est-ce que t'avais idéalisé un peu le secteur, le métier, et quelles étaient les contraintes, mais les choses que t'as vraiment dû travailler?
Alors peut-être la contrainte la plus difficile, c'est d'exister dans un milieu hyper concurrentiel, notamment quand t'es à Paris, puisque moi du coup j'ai commencé là-bas. C'est vrai que c'est un milieu de mort de faim, quoi, clairement. C'est hyper compétitif, il y a beaucoup de monde sur le marché, les places sont très chères. Le statut de pigiste, peut-être que tout le monde ne connaît pas, mais c'est en gros l'équivalent d'intermittent du spectacle. Donc, c'est des contrats jour, en fait. Donc, c'est-à-dire que la chaîne, elle t'appelle la veille, elle te dit, voilà, j'ai besoin de toi demain matin à 6h30, est-ce que tu peux être là? Oui, non. On ne dit pas non aux chaînes. Donc, en tout cas, on dit non une fois, deux fois, mais après, sinon, ils ne nous rappellent pas. Donc, ça, c'était assez, assez dur. J'aimais pas trop, en fait, cette mentalité. Ça m'a vite écœurée du milieu. Et après, peut-être le plus difficile, moi, je parle beaucoup et du coup, peut-être de faire concis, ça, c'était dur. J'avais toujours envie, voilà, d'en mettre plus. Et en fait, on était là à me dire non, il faut raccourcir. Et ça, c'était dur, ouais, couper.
C'était stressant, pigiste, parce qu'au final, tu sais pas trop, aussi au niveau de la rémunération, l'entrée d'argent, tu vis à Paris, c'est aussi plus cher qu'ailleurs.
C'est super précaire.
Parce que tu dis que c'est concurrentiel, mais au final, il y a aussi plus d'offres à Paris.
Il y a plus d'offres, ouais. Mais ouais, c'est, bah en fait, c'est très précaire finalement. Pour exister, tu dois faire le tour des rédactions pour dire que tu existes. Il faut rentrer dans les rédactions. Alors il y a des rédactions privées où, entre guillemets, c'est plus simple. Si tu as un contact, tu arrives à mettre un pied dans la porte et puis en fait on te rappelle et puis tu essayes une fois. Si ça se passe bien, on te rappelle et c'est enclenché comme ça. Il y a des rédactions, notamment dans le service public. Donc à France Télévisions, c'est très compliqué parce qu'il faut avoir un numéro pour pouvoir travailler chez eux. Enfin, il y a tout un process comme ça. Bon, c'est l'État, quoi. Donc c'est forcément plus compliqué. Mais en même temps, effectivement, il y a plus de demandes. Mais proportionnellement, comme il y a beaucoup plus de monde et que tout le monde veut être à Paris, parce que quand tu commences, que tu es jeune journaliste, tu vois, que tu as la dalle, en fait, et la niaque, quoi, tu as envie d'aller bouffer le monde, bah, si tu veux travailler et faire des trucs intéressants, en fait, il y a beaucoup de monde qui va à Paris parce qu'on a cette image que voilà, et tout se passe là-bas, alors qu'en fait, c'est pas vrai, finalement. Mais quand tu démarres, tu le sais pas. Donc, tu passes par Paris et puis tu fais tes armes, tu vois un peu comment ça se passe. Tu vis au jour le jour, clairement dans une ville où le coût de la vie est aussi forcément hyper élevé. Donc, c'est beaucoup de stress, forcément. Mais en même temps, tu fais des trucs que tu ferais pas ailleurs aussi, donc tu vois, c'est hyper stimulant, tu rencontres des gens incroyables, tu te retrouves, moi je me suis retrouvée par exemple à faire le retour de l'équipe de France quand ils ont remporté leur deuxième étoile. C'était incroyable, j'étais en haut de l'Arc de Triomphe, on a vu le bus passer, il y avait des milliers de personnes, une atmosphère de ouf, enfin, c'était fou quoi. Tu vis des moments hors du temps, hors du commun, et ça c'est possible que parce que t'es là à ce moment-là. Donc ça fait partie des trucs peut-être qui me manquent le plus dans le journalisme, de pouvoir accéder à des endroits inaccessibles et de pouvoir vivre des trucs uniques en fait.
Donc en fait, tu peux être le meilleur journaliste, si t'as pas de réseau et si t'es pas là au bon endroit au bon moment, ça peut coincer.
Ouais, c'est vraiment des questions d'opportunité, c'est des questions de réseau, des questions de talent aussi, hein, je dis pas, hein, ceux qui sont hyper forts, hyper doués, qui ont vraiment une plume, parce qu'il faut se différencier, vu qu'on fait tous un peu la même chose, et puis tu sais, les journalistes, ils parlent tous un peu de la même façon, tu vois, ils ont tous cette voix un peu avec des inflexions bizarres,
de là-haut sur, en fait,
tu vois, et ce soir, dans Enquête Explosive, donc tout le monde a un peu la même façon de parler, et puis tout est très normé, finalement, le but aussi, finalement, c'est que les journalistes soit un peu interchangeable, et moi on me l'a dit en fait assez souvent, tu sais, personne n'est remplaçable, et c'est vrai malheureusement.
Mais t'as aussi j'ai l'impression, certes t'as le talent, mais t'as aussi tout ce qui va derrière, et j'ai l'impression que bah, si t'es un beau garçon, une belle fille, ça passe encore mieux pour la télé.
Ouais, bah ça, clairement, on va pas se mentir. Les gens qui mettent à l'antenne, ils sont castés. Hein. En tout cas, sur les gros médias nationaux, les grosses chaînes, tu verras en général. Enfin, c'est peu probable, en tout cas. Alors, c'est peut-être moins vrai pour les hommes, parce qu'on met quand même plus de profils. En tout cas, les profils masculins sont plus diversifiés à la télévision. Là où, en tout cas, dans l'offre privée de télévision, les profils féminins sont quand même... relativement standardisé, donc il faut être grande, très élancée. Bon, si c'est nous, par exemple, à la 6, le critère c'est grande, blonde et très élancée.
C'est voilà. Hyper discriminatoire.
Ouais, mais on te le dit jamais comme ça.
Oui, c'est sûr.
On te le dit jamais comme ça, mais dans le fond, c'est ça. Nos Miss Météo, par exemple, c'est pas des gens qui viennent de formation météorologique, tu vois. Elles sont recrutées dans des agences de mannequinat et on leur apprend des trucs de météo après. Le process, c'est ça. Et c'est normal, c'est un monde d'image, donc tu peux pas non plus... ils ont, voilà,
audience en premier, audimat, etc.
Il y a des prérequis, clairement.
Et le fait de... Alors, revenir sur le sujet initial, donc t'es dans le journalisme.
Ouais.
Comment tu bifurques vers la communication?
Alors, par opportunité. En fait, jusqu'à maintenant, tout est un petit peu une question d'opportunité dans ma vie. Et la com et la création d'une structure, en fait, ça s'est goupillé comme ça. En fait, j'avais des amis qui montaient des startups à Paris, qui étaient incubés dans différentes boîtes. Et en fait, un jour, j'ai un copain, je m'en souviens très bien, j'étais à Clairefontaine, j'étais assise par terre devant le centre de formation à Clairefontaine, et j'attendais en fait que l'équipe de France de foot revienne de je ne sais quel endroit. Il y a beaucoup de foot dans mon parcours, c'est très présent.
Dans le sport,
toi qui es dans le sport.
Je suis assidûment.
Et donc j'étais assise à Clairefontaine, là, et j'attendais que cette équipe de France arrive. Et j'ai mon téléphone qui sonne, et c'est un de mes copains qui m'appelle en me disant écoute, voilà, nous on a monté une boîte avec un copain qui est un associé maintenant. On voudrait présenter ce qu'on fait parce qu'on va faire une levée de fonds, et en fait on a besoin d'un support vidéo à présenter aux investisseurs. Est-ce que tu saurais nous faire ça, toi qui fais des reportages et qui sais a priori faire des images? Donc sur le moment, je dis bon, ouais, a priori, je dois être capable de faire ça. Donc j'appelle mon copain de l'époque et je lui dis, écoute, voilà, Antoine, notre ami, vient de m'appeler pour me demander ça. Est-ce que tu peux venir avec moi? J'ai peur toute seule. Et il me dit, mais attends, Charlotte, t'es dans un délire. Tu veux interviewer Marine Le Pen et là, t'as peur d'aller faire un reportage pour un de nos copains. Enfin, t'es pas cohérente. Je dis, ouais, mais c'est pas pareil, la pression et tout. Et puis là, on me demande à moi directement, c'est pas la chaîne. Enfin, tout d'un coup, il n'y avait plus d'intermédiaire, en fait. C'était moi et ce que j'étais capable de produire.
T'avais le syndrome de l'imposteur, en fait.
Ouais, hein, comme tout le monde, hein, on passe tous par là, c'est normal. Et en fait, t'as beau avoir fait des années à la télé et avoir rencontré plein de gens et tout, en fait, dès que c'est toi...
Là, t'as quel âge, à peu près?
À ce moment-là?
Ouais.
C'était il y a 5 ans, donc j'avais, 24-25 ans. 25 okay. ans. Ouais. Je n'étais pas si jeune que ça, mais quand même.
Et donc, tu fais le projet.
Et donc, on va faire cette vidéo avec mon associé que j'embarque, mon copain à l'époque qui devient mon associé, du coup, que j'embarque. Et puis, ça se passe super bien. Ils sont contents, ils nous demandent d'autres vidéos. Et puis voilà, en fait, de fil en aiguille, on se dit, il y a peut-être un truc à faire. Finalement, les piges, moi, j'en faisais un peu moins en moins. Et puis, je n'étais pas trop dispo. Puis voilà. Et puis de l'autre côté, on me disait c'est bien, on a vu ce que tu as fait pour un tel, est-ce que tu pourrais aussi nous faire ça? Et puis du coup, il y a d'autres copains qui avaient d'autres boîtes qui m'ont dit moi j'aurais besoin de photos, est-ce que tu pourrais faire des photos? Et puis voilà, donc on a fait des photos, puis après on a fait des logos, puis après on a fait du graphisme, enfin bref, et en fait ainsi de suite, et jusqu'à se dire allons-y, montons.
En fait, toi, t'es parti de la demande, de la demande des besoins,
ouais,
c'est là que
t'as toujours
répondu.
Ouais, c'est pour ça que je te dis en fait. Vraiment de l'opportunisme.
Dans le bon sens du terme,
C'est savoir saisir les opportunités. Et nous, on a toujours fonctionné sur un modèle très simple qui est de dire, quand on nous demande si on sait faire, on dit d'abord oui et après on trouve des solutions. Donc parfois, en fait, on ne sait pas du tout faire. Et on est là, bien sûr, évidemment. Et là, en fait, là, tu joues le rôle de l'imposteur, mais dans l'autre sens, tu vois. C'est plus un syndrome, t'es vraiment un imposteur. Mais en même temps, ce n'est pas grave parce que ton boulot, après... En fait, c'est d'être capable de répondre à une demande. Et finalement, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que les gens, ils ont envie de travailler avec des personnalités, pas forcément avec des techniciens. Mmh. Donc, que tu sois graphiste, photographe, même cuisinier, en fait, finalement, c'est pas forcément ta technicité qu'on attend de toi à ce moment-là, c'est ta personnalité, ce que tu es capable de mettre de toi et de ta personne dans tes projets, ou en tout cas de ce que tu es capable de déployer comme ressources pour pouvoir mener à bien un projet. Et ça, je l'ai compris un peu plus tard. Et après, une fois qu'on le comprend, ça va mieux.
Et puis les gens veulent bosser aussi avec toi, ce que tu dégages, tout simplement.
Ouais, voilà, bah quitter.
Avec la société.
Ce que tu renvoies comme image, puis ce que tu es humainement aussi. Hein, quand tu es, je pense, sympa, bienveillant, bah forcément, c'est plus facile que si tu es un gros goujat ou, tu vois, je pense que voilà, en tout cas, pour nous, ça a fonctionné comme ça et ça fonctionne comme ça depuis bientôt 5 ans. Donc, bon, a priori, c'est que ça doit marcher d'une façon ou d'une autre.
C'est quoi le plus dur dans l'entrepreneuriat et, je dirais, dans l'entrepreneuriat au féminin, concernant ?
Alors, dans l'entrepreneuriat, il y a plein de trucs durs. L'entrepreneuriat, c'est dur.
Administratif ?
Non, c'est pas le plus dur. Je dirais que le plus difficile dans l'entrepreneuriat, en fait, c'est d'arriver à passer... Moi, je définis souvent ça, en fait, comme un électroencéphalogramme, tu vois. Donc, ça monte, ça descend, en fait. L'entrepreneuriat, c'est des très grandes joies, puis c'est des moments très difficiles, et puis ça remonte, et puis ça redescend. Et en fait, ce qui est hyper dur, je trouve, c'est d'arriver à se dire, dans les moments de très grande joie, « Ok, je garde les pieds sur terre, on n'est pas arrivé. » Et dans les moments où t'es vraiment down, où t'es tout en bas, à te dire « Ok, mais là, je suis pas encore à terre, en fait. » Et on va y arriver. Et d'arriver, en fait, à essayer de... Tu vois, de moyenner, en fait, ces très hautes joies et ces très grandes tristesses pour en faire un truc relativement constant où tu as tes valeurs, tu sais qui t'es, tu sais sur quoi tu peux t'appuyer et d'arriver à garder tout le temps ça en tête en te disant « Ok, là, je suis dans un moment difficile, mais là, je sais qu'on va remonter. » Ou « Là, je suis dans un moment de ouf parce qu'il vient, je sais pas, on vient de signer un contrat incroyable, mais c'est pas pour autant qu'on est arrivé. » Et en fait, de toujours se dire « Ben... demain, qu'est-ce qu'il y a ? Demain, qu'est-ce qui arrive ? » Et ça, je pense que c'est le plus dur.
Donc, c'est garder le flow, quoi qu'il arrive, ouais. Que tu sois très haut ou très bas, ouais. Mais tu sais que tu gardes ta ligne directrice.
D'être constant dans ses émotions, parce que c'est l'entrepreneuriat, c'est vraiment les montagnes russes émotionnelles.
Et alors, c'est ça coup, qui est oui. Cool. Ça, c'est sûr. Et donc là, vous étiez deux.
Ouais.
OK. C'est pas toujours facile de se lancer à deux.
Non.
Et encore moins quand tu te lances avec la personne avec qui tu vis.
Ouais.
Donc
ouais.
Là, en l'occurrence, ton conjoint.
Ouais, mon conjoint, ouais.
Ouais. Et comment vous vivez cette situation-là ? Alors, j'espère bien, bien sûr, mais c'est pas donné à tout le monde, en fait.
Alors peut-être que déjà le premier truc que je peux dire, c'est que être deux avant toute chose, c'est une force. Quoi qu'il arrive, t'es deux. Donc en fait, quand je te dis justement équilibrer tes émotions, bah quand t'en as un qui est down, l'autre il est là, il lui dit non, attends, on n'est pas, tu vois. Là, on va remonter, là, ok, c'est un moment un peu dur, mais on va y aller. Ou quand l'autre, il est euphorique, et ben, justement, l'associé, il est, attends, on n'est pas arrivé, calme-toi, tu vois. Donc quand t'es deux, c'est vachement plus simple déjà de relativiser tes propres émotions parce que t'as un miroir qui te les renvoie. Et ça, je trouve que c'est vraiment une force. Donc moi, je dis que les gens qui sont tout seuls, en fait, moi, je suis hyper admirative des gens qui entreprennent tout seuls parce que, ben, toi, tu le sais aussi, mais quand t'es entrepreneur, en fait, t'as 50 casquettes. T'es agent administratif, commercial, comptable. Enfin, en fait, tu fais tout. T'es au four et au moulin en permanence. Et quand t'es deux, ben, déjà, tu répartis ta charge de travail sur deux personnes. Donc, pour peu que t'en aies un qui soit plus à l'aise avec les chiffres, bon, bah, a priori, la compta, c'est pour lui. Tu vois, et en fait, t'arrives comme ça à sectoriser. Après, là, moi, donc, nous, on s'est lancé avec mon conjoint. Ça faisait déjà un moment qu'on était en couple. Hein. Faut peut-être pas y aller avec une personne qu'on vient de rencontrer. Je pense que.
Ça peut être
ouais,
compliqué.
C'est comme faire un enfant. Faut pas y aller tout de suite avec quelqu'un que tu viens de rencontrer. Ça peut être compliqué.
C'est ce qu'on peut mettre en avant. Ça, c'est sûr.
Enfin, en tout cas, c'est. Voilà, tu te facilites pas la vie en faisant ça. Donc nous, on est partis, en fait, un peu à l'arrache, clairement. Hein, voilà, on s'est dit, allez, go, on voit, on y va, on se lance et puis on verra bien. Ouais, exactement. Et puis, on n'avait pas envie d'avoir des regrets, de se dire, on n'y a pas été, alors qu'en fait, à un moment, on aurait pu. Donc, on s'est dit, allons-y, on teste, on voit et puis on en reparle dans un an. On s'était fixé des objectifs chiffrés pour la première année et en se disant, voilà, si on les atteint, on monte une vraie boîte. On est parti sur deux statuts d'auto-entrepreneur pour voir un peu prendre la température. Et au bout d'un an, on avait éclaté nos objectifs. Et on s'est dit, bon, bah, ok.
On peut y aller.
Allons-y. A priori, on n'est pas plus bêtes que d'autres. On s'entend bien. On fonctionne bien ensemble. Le truc qui est hyper important, je pense, quand tu bosses à deux, a fortiori en couple, c'est de bien définir à chacun ses prérogatives. Donc, en fait, c'est genre, ça, c'est mon espace de travail. Moi, je suis en charge de telle tâche, telle tâche, telle tâche, telle tâche. À partir de ce moment-là, ça, t'y touches pas. Ne viens pas empiéter dans ma zone de travail. Parce que si tu commences, en fait, à dire, oh, bah, attends, lui, il fait un peu comme ci, moi, je fais un peu comme ça, et puis, pff, c'est un peu le bazar. En fait, bah, tu te phagocytes mutuellement et ça fonctionne tout de suite moins bien, c'est moins fluide. Donc, si je peux te donner un conseil, même si voilà, j'aime pas trop faire ça.
aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent. Hein.
Bah, c'est peut-être de bien définir à chacun voilà, ta zone d'exercice. Donc, c'est-à-dire, nous, on a fait quelque chose de très simple. On a dit, ok, moi, je suis directrice opérationnelle. Donc, en fait, là-dedans, bah, on met tout ce qui est production, réalisation, gestion des freelances, gestion, enfin voilà, tout ce qui sort en termes de contenu de chez nous, ça passe par moi. Mmh. Et tout ce qui est administratif, ça passe par mon associé. Et à partir de là, ça ne veut pas dire qu'on ne se parle pas, ça ne veut pas dire qu'on ne fonctionne pas ensemble. Au contraire, ça veut juste dire que dans nos process de travail, bah, on a chacun notre domaine vraiment défini, proprement défini, et que je viens pas ingérer dans la partie administrative en disant bah quoi ma facture XD42 elle est pas comme si non parce que c'est pas mon domaine de compétence et à l'inverse mon associé il vient pas en me disant je comprends pas ta vidéo pourquoi elle est comme si ou elle est comme ça
et puis sinon ça crée le bazar et après vous en sortez plus et c'est
ouais
et
à tous les niveaux en fait après ça
et
c'est
comment
la
vous faites la distinction donc ça j'ai bien compris franchement t'as les process et tout donc c'est
t'es obligé mais on les a mis en place au fur et à mesure aussi.
Oui, de toute façon, tu as une vision idéale de base, ouais. Et puis après, tu sais que tu dois t'adapter à tout, en fait.
Exactement.
Et comment tu fais, comment vous faites à deux, surtout, pour séparer le pro du perso ? Parce que quand tu rentres à la maison le soir, tu vas quand même parler du projet, de la journée, qu'est-ce que tu as fait, etc. Donc, comment tu arrives à couper ? Parce que ça peut être une charge mentale, en fait. Et après,
clairement.
Tout ce qui s'en suit.
Alors,
comment vous faites ? C'est quoi le secret ?
Franchement, on n'a pas de secret. Déjà, je pense que quand t'es entrepreneur, en fait, tu coupes jamais vraiment. Que tu le veuilles ou non. En plus de ça, quand c'est ta boîte, bah, tu vois bien, tu la portes en permanence, en fait. Alors, quand bien même, des fois, tu pars en vacances et puis t'essayes de pas trop y penser, en fait, t'es tout le temps dedans. Et en fait, c'est ça aussi qui est bien, parce que nous, c'est ce qui nous plaît, en fait. C'est que finalement, t'incarnes ta société, mais à tous les sens du terme. Ça veut dire que quand tu pars en vacances, toi, t'as l'impression que t'es là, tu bois un coup, tu rencontres des gens parce que t'es au bar et tout. Mais en fait, dans ta tête, quand tu rencontres des gens, toi, t'es déjà en train de te dire qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce que c'est des prospects potentiels ? Tu vois ? T'as des espèces de déformations comme ça. En fait, et du coup, tu vois du business partout après, tu sais, tu deviens fou. Et donc, t'es tout le temps où, par exemple, moi, quand je vais à Paris voir mes amis et que je rencontre d'autres gens, tu vois, qui sont parfois dans les mêmes secteurs d'activité, bah, je suis contente de rencontrer des nouvelles personnes, mais j'ai envie de savoir comment ils travaillent, tu vois, qui sont leurs clients, comment ils mettent en place leur process. Enfin, tu vois, en fait, je suis tout le temps dedans. Et donc ça, c'est cool parce que, en fait, tu fais plus vraiment la distinction, mais ça se fait quand même, tu vois. Enfin,
c'est deux passionnés
qui
vivent le même truc, en fait, au final.
Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais. Après, t'es quand même obligé de mettre des limites.
Oui,
et
c'est sûr.
Nous, je sais que ce qu'on a fait à un moment, et je l'ai imposé quand on habitait à Paris, parce qu'on avait un tout petit appartement, comme toute personne qui habite à Paris. Enfin, et encore, il faisait 30 mètres carrés, donc c'était déjà grand pour Paris. mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, on se retrouvait, par exemple, le soir à faire des montages vidéo à 11h du soir, dans le lit, avec l'ordi sur les genoux.
C'est terrible.
Et en fait, tu te dis, non mais attends, c'est n'importe quoi là, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, moi j'ai dit, à ce moment-là, je veux qu'on prenne des bureaux. J'ai dit, ok, on habite à Paris, certes, c'est compliqué, certes, ok, il y aura toujours 10 000 raisons qui feront que, mais je refuse de travailler chez moi. Je veux, en fait, qu'entre le moment, le matin, où je pars de chez moi et où j'arrive au bureau, je veux qu'il y ait un sas, qui soit le métro, le RER, t'y vas à pied, t'y vas en trottinette. Moi, à Paris, j'avais une moto, par exemple, bah, j'y allais à moto au bureau. Bah, ce moment-là, ça, c'est mon sas de décompression, où je vide mon perso de ma tête pour pouvoir m'atteler à mon pro et idem le soir en partant, je quitte le pro, enfin je fais sortir le pro de ma tête pour pouvoir m'atteler à mon perso. Et ça a été super important et ça a vraiment marqué en fait, je pense pour nous, le passage de on est notre petite entreprise à nous à on est une société. Et je pense qu'en fait, la bascule pour nous s'est faite à ce moment-là. Et quand on est revenu à Metz, donc parce qu'effectivement, à un moment, on est parti de Paris pour venir s'installer à Metz. Et mon associé m'a dit « Oh, écoute, Metz, il y a de la place, les appartements sont plus grands. Franchement, on pourrait travailler à la maison, on ferait des économies. » Et je lui ai dit « Texto, c'est hors de question, je veux un bureau. » En fait, même s'il est tout petit, même s'il fait 5 mètres carrés, même si c'est une cave n'importe où. Bon, c'est pas du tout une cave, du coup, il est super sympa, notre bureau. Mais je veux qu'on ait un bureau. Je tenais à ce qu'il y ait ce... Sinon, effectivement, t'es tout le temps dedans. Et nous, en plus, on est en couple. Donc là, c'est fini, quoi.
Ah oui, là,
tu fais ta sauce tomate le soir, t'es en train de faire tes devis en même temps. C'est l'enfer, quoi.
Est-ce que tu travailles plus avec des salariés ou des freelances, et est-ce que c'est un choix que tu as décidé ou qui est contraint par la force des choses par rapport forcément à l'aspect business, par rapport à toutes les contraintes administratives?
C'est un mix des deux. Nous, on a fait un choix en fait dans notre façon de fonctionner qui fait qu'on a internalisé les postes stratégiques. Donc typiquement, on a embauché chef de projet et un poste stratégique pour nous qui est monteur vidéaste, enfin qui est cadreur monteur précisément. Ça, c'est deux postes qui étaient hyper importants pour nous, donc on les a internalisés parce qu'on savait qu'on avait un volume de vidéos suffisant pour embaucher quelqu'un à plein temps là-dessus, et on savait qu'on avait besoin d'une chef de projet pour pouvoir gérer justement les différentes missions. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que ces deux postes-là qui sont donc très stratégiques pour nous, on les garde en interne parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir en fait des extérieurs.
C'est trop risqué.
C'est trop sensible même, tu vois, de partager tes process, ta façon de travailler avec des gens qui vont aller bosser dans d'autres boîtes qui sont parfois tes concurrents, et c'est normal. Mais bon, après, tu sais pas, t'as pas forcément de clause de confidentialité, et puis les gens parlent, enfin bon. Donc voilà. Et après, on s'est dit que sur tous les postes en fait, qui sont plus techniques, on va dire, donc ça va être du graphiste, du motion designer, sur des missions très précises, et ben là, en l'occurrence, on travaille avec des freelances. Et en fait, sur ce mix, un petit peu, ce modèle hybride, ça fonctionne assez bien. Ouais.
On a quasiment fini la première partie, Charlotte.
Ouais, je parle beaucoup, désolée.
Non, c'était très intéressant. Moi, j'ai appris des choses, les auditeurs et les auditrices ont appris des choses, donc très bien. On passe à la deuxième partie. Le quiz.
Oh mon Dieu.
Et
ouais.
Là, il faut que tu ailles. Donc, spontanéité.
Il faut que je me concentre.
Voilà. Comme si tu étais devant la caméra.
Ouais, je vais bégayer du coup.
Alors, tu réponds le plus rapidement. Oh là, j'ai le micro qui part en vrai.
Ouais.
Tu réponds le plus rapidement possible.
Ok.
Tu as deux choix et, okay. Et on y va.
Ok.
Freelance ou salarié?
Salarié.
Journalisme ou communication?
Communication.
Cuisine sucrée ou cuisine salée?
Salée, direct. Fromage charcute.
Paris ou Metz?
Ah, c'est dur ça.
Joker?
Non, je vais dire Metz quand même.
Moselle ou Corse?
Voilà, t'es dur. Attends, je vais me faire renier par toute ma belle famille. Je vais dire la Corse parce que j'ai dit Metz avant.
Comme des années 2000 ou comme de la future année 2024?
Allez, 2024. Elle arrive là.
Même si on aime bien MSN, Skyblock, tout ça.
Ah mais les années 2000, c'était la folie. C'était génial.
Internet, c'était quand même sympa à cette époque-là. C'était marrant.
Ah, c'est clair.
Et mais... le dernier, Billy Crawford ou L5?
Ah non, Billy Crawford, évidemment. Billy Crawford. Attends. L'amour de toute une vie.
Top. Eh bien, écoute, merci de t'être livré sur le podcast. C'est
merci
quoi la suite de 2024 pour l'agence? Est-ce qu'il y a des projets dont on peut parler, dont on peut teaser ou pas? C'est quoi la suite? Dis-nous tout.
Ouais, bien sûr. Alors, il y a un projet, effectivement. Enfin, il y a plusieurs projets parce que l'un des gros chantiers de 2024, déjà, c'est qu'on ouvre un département documentaire. Donc, je reviens à mes premiers amours du journalisme et je suis très contente de monter ça avec une fille super qui s'appelle Oriane, voilà, avec qui on ouvre un département documentaire, et on a notre premier projet de documentaire qui est en train de se faire, en tout cas, de prendre forme dans nos têtes et dans nos caméras, donc c'est cool. Donc ça, c'est le premier truc super. Et le deuxième truc super, c'est plutôt pour fin 2024. Et là, en l'occurrence, c'est la création d'un lieu d'accueil pour les créatifs, qu'ils soient vidéastes, photographes, podcasteurs,
là, ça m'intéresse,
graphistes. Voilà, tu vois, quand je te disais avoir son bureau. En fait, voilà, je suis à la recherche actuellement, avis aux agents immobiliers aussi du coin. Je suis à la recherche actuellement donc, d'un lieu qui soit au centre-ville de Metz, avec de la place pour monter une partie bureau et une partie studio, photo, vidéo et musique. Et l'idée, en tout cas, c'est de pouvoir proposer aux créatifs, aux freelances, un peu aux gens qui ont besoin d'un endroit pour pouvoir développer leur créativité, et ben de venir et de pouvoir s'installer, de faire comme chez eux. Et puis l'idée, mon idée derrière tout ça aussi, c'est de pouvoir créer des partenariats et des synergies sur des projets. Parce que, encore une fois, moi, je suis super branchée équipe, t'auras compris.
Donc, collectif.
Voilà, là, en gros, je suis en train de créer le Clairefontaine des créas de Metz, quoi.
C'est stylé.
Et du coup, donc, okay. Avis aux créatifs qui sont en recherche d'un lieu ou d'un bureau, simplement, que ce soit pour une journée, une demi-journée ou plus, si affinité, ben voilà. Ça ouvrira bientôt, peut-être, fin 2024.
On va suivre ça avec impatience. En tout cas, je valide complètement le projet.
Bah écoute, t'auras ton bureau réservé à côté du studio d'enregistrement de podcast, si tu veux, pas de problème.
On en reparlera, ça marche. Bah écoute, Charlotte, merci beaucoup. Comment on fait pour suivre l'agence ? Est-ce que on peut s'abonner sur les réseaux, voir un peu les créas ?
Bien sûr, ouais, bah sur nos réseaux sociaux, évidemment, Facebook pour les boomers, comme nous. Instagram, évidemment, LinkedIn, et on a même une page TikTok.
Ah, c'est nouveau ça.
Ouais, exactement.
Okay. Voilà. Très bien.
Eh
ben,
pour aller voir les petits contenus vidéo faits pour les clients et pour nous.
Ok, très bien. Eh ben, on va. Moi, je suis déjà abonné, mais abonnez-vous, vous allez regarder. Et puis, puis on souhaite longue vie du coup à l'agence A Le Fleuve.
Agence A Le Fleuve, exactement. Merci Thomas.
Merci Charlotte. À bientôt.
Merci d'avoir écouté l'épisode du podcast La Clanche. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis et à le partager autour de toi. Pour en savoir plus et si tu veux échanger, rendez-vous sur le site www.confidence-sportive.fr. À bientôt.